5h13 sur Inter, on va parler cette fois évidemment des Outre-mer avec Mayotte, tiens, où la situation ne s'arrange toujours pas.
Hein. Ah non, la gratuité des visas des Comoriens pour Mayotte, ça ne passe pas et ça reste une menace pour les Mahorais. Ainsi, le service des étrangers à la préfecture de Mamoudzou est resté mercredi fermé et ça va continuer pour cause de précaution car les manifestations continuent, les manifestants battent toujours le pavé et le collectif, qui s'appelle Collectif pour le maintien du visa Balladur, a été invité à discuter avec le préfet, qui lui s'appelle Frédéric Vaux. Seulement voilà, invitation déclinée. Seuls deux de ses membres ont été délégués pour expliquer les raisons de ce nouveau mouvement de colère à Mamoudzou.
Mabalaki Ousseni, membre donc du collectif, est au micro de Djamila Soidiki.
Nous avons décliné cette invitation tout simplement parce que le préfet n'a pas respecté ses engagements. Il nous avait dit qu'on avait posé déjà un préalable. Il arrête l'ouverture de la préfecture des étrangers et puis à partir de là, on allait rentrer en discussion avec lui pour voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution face au problème du flux migratoire qui envahit Mayotte. Ce matin, en revenant, il n'a pas respecté ses engagements et nous aussi, nous déclinons son invitation.
D'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, c'est les Mahorais qui le diront demain matin. Parce que si les chiffres de la préfecture ont évalué qu'on était aux alentours de 3000 manifestants, alors demain, je voudrais qu'ils puissent voir qu'on était 10 000. Ils acceptent qu'on était 10 000. Alors je demande à toute la population mahoraise de descendre massivement.
En Martinique, là, le conflit social s'achève au bout de 20 jours.
Oui, 20 jours, Hélène, en plus passage de Irma, etc., etc. Alors c'est mardi soir en préfecture à Fort-de-France qu'un accord a mis fin d'ailleurs au conflit sur les contrats aidés. Accord conclu entre le préfet, une délégation de l'unité syndicale et associative et des maires de l'île. Ainsi, les contrats aidés sont maintenus au niveau de 2016 jusqu'à la mise en place d'un dispositif qui sera plus satisfaisant pour l'emploi durable des personnes concernées.
Marie-Michel Toussaint du syndicat des enseignants UNSA, elle est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Ça a été un combat difficile, un rude combat, mais je crois qu'on a trouvé des consensus, en tout cas dans l'intérêt des 3000 personnes concernées. C'est quand même 3000 emplois que nous avons réussi à sauvegarder. Et de plus, nous avons réussi à faire entendre qu'il fallait qu'on aille vers un processus de pérennisation de ces emplois. Alors, après une vingtaine de jours, c'est remarquable quand même que ce soit la première académie, en tout cas, qui ait réussi à maintenir l'ensemble de l'aide administrative à la direction d'école, l'ensemble des emplois pour l'aide aux enfants en situation de handicap et puis aussi l'ensemble des emplois pour les vies scolaires et au collège et en lycée.
Dans l'éducation nationale, ça fait combien d'emplois à peu près ?
920 à peu près.
Et donc c'est une enseignante que vous venez d'entendre, Hélène, Marie-Michel Toussaint, mais il faut savoir que la fin du conflit ne signifie pas reprise des cours. C'est le cas du lycée professionnel Nord-Caraïbe, rentrée retardée. Because le passage de l'ouragan Irma qui a fait des dégâts. Quant au contrat aidé dans ce lycée, il faut savoir qu'ils assuraient la logistique, entre autres, de la pension et de la demi-pension.
Et oui, ça s'organise tout ça. Et à Saint-Martin, place à la reconstruction.
Reconstruire, oui, mais en mieux. Après le passage d'Irma et aussi après le passage de l'ONG française, les architectes de l'urgence. Alors le premier constat de cette ONG démontre que fort heureusement le bâti à Saint-Martin n'a pas été détruit, comme on l'a dit, à 95%. Donc les premiers chiffres très alarmistes sont faux, fort heureusement, Hélène.
Avec ce compte-rendu de Franck Aristide de Guadeloupe Première.
Si tous les bâtiments ont plus ou moins souffert, pour autant, ce ne serait pas 95% du bâti qui serait complètement détruit, mais 5%. Généralement, les toits et la menuiserie extérieure, telles que les baies vitrées, ont été particulièrement touchés. Bien évidemment, les plus endommagés sont les constructions légères, ainsi que celles qui, en bord de mer, ont subi le courroux de la houle. Et pour ces professionnels, même si la violence des vents explique les dommages, c'est aussi beaucoup le non-respect des normes anticycloniques qui a entraîné de tels dégâts. Absence de chaînage, qualité des bétons insuffisante, ferraillage corrodé, acier inadapté. Ils engagent la responsabilité des constructeurs privés, mais aussi de la collectivité, puisqu'ils mettent en cause le contrôle des opérations de construction, l'entretien de certains bâtiments publics et le respect des règles d'urbanisme, notamment en zone inondable. Reste maintenant à savoir si d'Irma seront au moins tirées quelques leçons pour l'avenir.
Et oui, Hélène, et si à 5h17 du matin, quelques secondes sur France Inter, il est aussi 5h17 à Glu-en-Glaine, dans le Morvan, sachez que j'ai pris des nouvelles des ouragans. Alors Maria et un certain Lee, on n'a pas beaucoup entendu parler de celui-là, très affaiblis tous les deux, vous savez ce qu'ils vont devenir?
Non.
Eh ben, ils vont traverser l'Atlantique, ils repartent dans l'autre sens.
Oh, voilà. Ça va souffler?
Ouais, ça va souffler, ils vont terminer leur course en Irlande en début de semaine prochaine. Ça va dracher, qu'on se le dise.
Comme un ouragan tous les matins. Merci José-Manuel Lamarque.
Merci Hélène.